Quand le Seigneur Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà ce qui est une des conditions pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir soif. Alors ce matin, c'est pas tout à fait ça le thème. Le thème, c'est plutôt de savoir, de reconnaître quand le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Parce qu'il y a des signes, il y a quelque chose qui se passe, et quand le Saint-Esprit est là, on peut savoir si c'est le Saint-Esprit. Il y a des fois, on pense que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est seulement peut-être des émotions, c'est seulement une ambiance, alors que la Bible nous montre, quand le Saint-Esprit est là, il y a certaines choses qui se passent. Un verset qui va être le centre de ce que je partage ce matin. Alors, je vous ai dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce qu'il est marqué ? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, un des signes pour reconnaître si le Saint-Esprit est là, c'est la liberté. Amen. Amen. Sauf que c'est pas n'importe quelle liberté. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre ce matin. Parce que malheureusement, on est dans une époque où les gens ont mis dans la liberté du Saint-Esprit, ils ont mis toutes sortes de choses, ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi dans les églises. Ce qui fait que on croit que c'est le Saint-Esprit, parce qu'on dit « oui, on est libre, je suis libre de faire ceci ou cela », alors que la parole de Dieu est claire et elle nous montre ce que c'est cette liberté. La première chose, première définition que je peux vous donner, c'est qu'on a la liberté de faire tout ce qu'avant on ne pouvait pas faire, parce qu'on était pécheur, parce qu'on était prisonnier, parce qu'on était esclave du diable. Maintenant, nous avons la vraie liberté en Christ. Amen. Et c'est ça que je voudrais vous voir ce matin. Alors, pour le voir, quel est l'endroit dans la Bible où on peut certifier qu'il y a eu le Saint-Esprit qui était là ? À quel moment, quel événement s'est passé ? Il n'y a pas de piège dans la question, où le Saint-Esprit s'est manifesté, on en a le témoignage. Acte 2, merci Marinck. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Alors on va lire ce qui s'est passé. Parce que dans ce passage, on voit justement de quelle liberté il est question. Acte 2, verset 1er, on ne va pas lire tout le chapitre 2, je vous conseille de le faire à la maison, mais on va lire quelques passages, les premiers versets du moins. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Et c'est là que Pierre a commencé à faire son discours. On y reviendra tout à l'heure, c'est pourquoi j'arrête ma lecture ici. La première liberté dont il est question, vous la regardez dans le premier verset, il est dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est pour cette raison que Dieu a pu envoyer son esprit, parce que Dieu ne va envoyer son esprit que là où on a la liberté, oui, de s'assembler, mais surtout de s'accorder. Parce que c'est pas une répétition qui est donnée dans ce verset. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On pourrait croire que la parole de Dieu se répète et emploie des mots en trop. Mais quand il est dit tous ensemble, ça veut dire qu'ils n'étaient qu'un. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Et quand il y a le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, on est obligé d'être sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit, qui est rempli du Saint-Esprit, et puis qui est fâché avec son frère? Ça peut arriver quand on est des désaccords. Ça vous est jamais arrivé? C'est merveilleux, moi, ça. Je vais déménager plus vite que prévu. Non. Oh, dès l'instant où on a une relation avec quelqu'un, on peut avoir des désaccords. Mais quand on est spirituel, quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, on n'a qu'une envie, c'est que le désaccord puisse se régler tout de suite. On n'a qu'une envie, c'est d'aller demander pardon. On n'a qu'une envie, c'est de régler. D'ailleurs, le fruit de l'Esprit, c'est la paix, entre autres. On veut rechercher la paix. Et si on est rempli de l'Esprit de Dieu, alors on va rechercher la paix. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui pense que l'Esprit est là et qui est frustré parce que son frère ne pense pas exactement pareil que lui? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de patience. Des fois, on a besoin d'user de patience envers notre frère. Peut-être que c'est nous qui avons tort et le Seigneur va nous montrer. Peut-être que c'est lui qui a tort. Il faut avoir cette patience, avoir cette douceur, pas rentrer dedans, pas dire les choses avec en brusquant, mais demander au Seigneur par son esprit la patience. Quelqu'un qui critique, qui dit « Ah, que c'est comme ci ou c'est comme ça, il faut pas. » Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est pas un esprit d'amour, justement. Un esprit qui prend soin des autres. Un esprit qui fait attention à, parce qu'il y a des paroles qui peuvent blesser et qui fait attention à sa bouche. Là où il n'y a pas d'accord, là où il n'y a pas de cette paix, cet amour, cette douceur, le Saint-Esprit n'est pas là. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir. Vous savez que le mot qui dit s'accorder, c'est un mot qui a donné en français le mot symphonie. Quand quelqu'un s'accorde, c'est comme s'il était en symphonie avec lui. Vous avez déjà entendu un orchestre symphonique? Est-ce que c'est important que les instruments s'accordent? Imaginez un instant qu'il y en a un qui s'accorde sur la 440 Hz, et puis il y en a un autre qui s'accorde à 442 Hz. Donc ça fait une autre note. Ça va faire une cacophonie. Et imaginez ce que ça fait pour le Seigneur quand des personnes se rassemblent et qu'ils ne sont pas accordés sur la même chose. Il y en a un qui prie inspiré par le Saint-Esprit, et puis il y en a un autre qui prie inspiré par sa chair. Ou qui refuse, qui combat avec le Saint-Esprit parce qu'il refuse d'aller demander pardon. Et qui continue quand même d'élever sa prière. Est-ce qu'il n'y a pas un verset dans la parole qui nous dit justement, Jésus lui-même qui a dit, quand tu pries, si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande. Va te réconcilier d'abord avec ton frère. Et après, tu peux reprendre l'offrande. Après, tu peux reprendre la prière. Combien c'est important. Et ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit est au milieu de nous quand les gens sont capables d'aller voir parce qu'il y a eu un différend dans le passé. On a tous nos faiblesses, on fait des erreurs, mais on est capable de demander pardon et on est capable aussi d'accorder notre pardon. Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Regardez dans Matthieu chapitre 18. C'est un verset que vous connaissez bien. Souvent, quand on n'est pas nombreux, on le récite, ce verset, pour s'encourager, et on a raison de le faire. Matthieu chapitre 18, verset 20, il est dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. On est plus que deux ou trois ce matin, donc on sait que le Seigneur est au milieu de nous. Mais si on lit bien le verset, il commence par ce petit mot « car ». Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Car, ça veut dire que ce qui est avant est important. Et ce qui est avant, c'est cette parole. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux s'accordent, alors là où les deux sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais si les deux ne sont pas accordés, même si vous vous assemblez, je ne suis pas au milieu de vous. On peut traduire comme ça la parole. Vous êtes d'accord? Je ne l'ai pas modifié, je ne fais que répéter ce qu'elle vient de dire. Voilà pourquoi c'est important de s'accorder. Il y avait une personne qui aimait venir à la prière, et c'était à l'époque du pasteur Finet, donc dans le siècle 19e siècle, voilà, c'était à cette époque-là. Et Finet, il parlait d'une femme qui venait à la prière et qui priait pour son mari qui était inconverti, qui priait, qui pleurait, qui criait, qui faisait toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il a eu à cœur de parler avec elle parce qu'il voyait qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a rien qui se passait dans la vie de cet homme. Et il a commencé à lui poser la question, mais pourquoi est-ce que vous priez pour votre mari? Ben pour qu'il se convertisse, oui d'accord, mais pourquoi? Mais comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour venir à l'église parce qu'il pourra me porter en voiture. Et finalement, il lui dit, mais votre prière là, c'est un motif égoïste. Alors, moi je prie pour que votre mari se convertisse parce que sa vie déshonore Dieu. parce que son comportement est une offense à Dieu et que quand il va se convertir, il va devenir quelqu'un qui va honorer Dieu. Et il faut que vous priez avec ce motif-là. Et si nous prions avec deux motifs différents, on n'en est pas accordé et le Seigneur ne peut pas écouter nos prières. Bien sûr que le Seigneur fait grâce. Et si on se retrouve tout seul à intercéder parce qu'on est dans la volonté de Dieu, Dieu peut entendre notre prière. Mais cette dame avait besoin de changer, de réaliser que ses motivations n'étaient pas bonnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les gens à venir à la réunion de prière. Et je ne forcerai jamais quelqu'un à venir à la réunion de prière. Je préfère qu'on soit deux ou trois, je ne sais pas combien vous êtes en réunion de prière, j'ai pas eu l'occasion encore. Mais je préfère qu'on soit pas nombreux, mais qu'on soit totalement accordés afin que le Seigneur entende nos prières, afin que son esprit repose sur nous, afin que nous puissions vivre des temps dans la présence de Dieu. Parce que là, je sais qu'il y aura l'action du Saint-Esprit. Plutôt que d'être une foule, mais que les hommes pensent de manière égoïste à prier pour leur famille, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir à la réunion de prière, attention. Hein. J'en entends certains penser, ah c'est bon. Non. Ça veut dire peut-être que c'est l'occasion de dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas besoin de me remettre en question? Parce que est-ce qu'on ne veut pas tous vivre cette vie de l'Esprit? Est-ce qu'on ne veut pas tous avoir dans notre vie l'empreinte de Dieu? Parce que on l'a lu quand même, ce verset sur lequel on est passé vite. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, ça veut dire que Dieu, il habite en nous par le Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu qui est là. Et nous qui sommes de simples hommes, on a ce privilège incroyable que le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors je passe. La liberté de s'accorder, de s'assembler, la liberté de s'approcher de Dieu et de l'adorer. Revenons à Actes chapitre 2. Quand on parle de liberté de l'esprit et d'adoration, on entend toutes sortes de choses dans nos milieux et un peu partout, dans les milieux chrétiens, sur Internet. Et on déplace la question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de l'adoration, souvent on déplace la question à des choses matérielles. Alors que l'adoration, on l'a chantée plusieurs fois. Merci Michel pour ces chants qui nous rappellent qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'adoration, c'est pas une question. Justement, est-ce que la liberté de l'esprit dans l'adoration, c'est de prendre des chants nouveaux ou de prendre des chants anciens? Vous voyez, j'ai entendu il y a 15 ans quand j'étais dans une église, j'entendais les gens qui défendaient ah moi les anciens cantiques c'est les meilleurs. Ah non, les jeunes qui disaient non, les nouveaux cantiques c'est les meilleurs. Et il y avait comme une rivalité. Et moi j'étais là, mais je disais mais moi peu importe. Du moment que ça élève mon Seigneur, c'est ça qui est le meilleur. Le but, c'est d'élever mon Seigneur. Qu'il soit des chants plus anciens qui ont des paroles tellement profondes, des chants plus récents qui ont une musique qui nous pousse vers à louer le Seigneur, peu importe. Du moment que je suis un adorateur en esprit, en vérité. Comprenez? Est-ce que c'est ça qui peut déterminer le critère de la qualité de mon adoration? Non. C'est ma vie, c'est mon adoration propre. Est-ce que c'est la posture physique? D'être à genoux, d'être debout, d'être assis, de lever les mains, de baisser les mains, peu importe. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça qui détermine l'adoration? Non, tout ça, ce sont des expressions de notre cœur. Mais si ce ne sont que des expressions extérieures et que dans le cœur, on n'adore pas, ben ça sert à rien. Est-ce qu'il faut une batterie ou il faut pas de batterie? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. On en a presque besoin d'une révélation, alors qu'il n'y en a pas besoin. Est-ce que c'est tel instrument qui est important ou tel autre instrument? Je crois que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs doit nous amener à réfléchir que Dieu désire des adorateurs en esprit, en vérité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'accès à la présence de Dieu. Il y a ce verset que vous connaissez, nous avons par la foi en Jésus la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et quand ces personnes, le jour de la Pentecôte, et qui étaient dans l'unité spirituelle, qui étaient dans ce désir d'être un, et qui étaient dans ce désir de plaire au Seigneur, se sont rassemblés, le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux, ils ont pu s'approcher de Dieu et vivre un temps de visitation particulière. Et combien on a soif de vivre des temps comme ils ont pu le vivre. Et c'est possible. Mais s'approcher de Dieu, ça veut dire que on va être au contact de la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez remarqué que alors qu'ils commencent à être remplis du Saint-Esprit, ils vont sortir dehors, ils vont commencer à parler en langue, ils vont commencer à dire toutes sortes de choses, ils vont commencer à faire des choses qu'avant ils ne pouvaient pas faire. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition pour l'adoration en esprit en vérité que de faire des choses qu'avant on ne pouvait pas faire. Imaginez un instant que ces hommes et ces femmes réfléchissent. Bon, sur Jérusalem, il y a des Parthes, il y a des Mèdes, il y a des Élamites, il y a des Égyptiens, il y a des Crétois, des Romains, etc. Alors, toi, Pierre, tu vas apprendre le Crétois. Toi, Jacques, tu vas apprendre l'Égyptien. Et ils se mettent tous à apprendre les langues qu'ils ont pu exprimer ce jour-là pour pouvoir parler des merveilles de Dieu. Combien de temps ça aurait pris ? Ça aurait pris un peu de temps. Enfin, s'ils sont doués comme moi, ça aurait pris quelques mois, je pense, pour apprendre les langues qu'ils ont pu apprendre par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a eu ce miracle qui a fait qu'ils ont pu parler de Dieu à des personnes, ce qu'ils auraient jamais pu faire sans le Saint-Esprit dans leur cœur. Il y a ce verset dans 2 Corinthiens, le contexte qu'on a lu tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 3, vous savez, c'est dans le contexte où Moïse mettait un voile sur sa tête, parce que quand il passait du temps dans la présence de Dieu, il était resplendissant. Mais quand il était devant les fils d'Israël, il était obligé de mettre le voile. Et il est dit que nous avons la liberté de ne plus avoir le voile. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, d'avoir un contact avec Dieu, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et nous avons la liberté d'adorer Dieu par notre comportement, surtout pour que les gens qui sont au dehors puissent le voir. C'est ça que la liberté que nous avons. Nous avons la liberté de faire des choses que par la puissance de Dieu, nous pouvons faire maintenant et que nous ne pouvons pas faire avant. Ce qu'a dit notre frère tout à l'heure pendant la Sainte-Seine, c'est Dieu, il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Il fait infiniment au-delà. Qu'est-ce qui a touché ces personnes le jour de la Pentecôte ? Il y en a qui disent « Ah, mais c'est parce qu'ils ont parlé en langue ». Est-ce que c'est parce qu'ils ont parlé en langue que les personnes ont été touchées ? Oui et non. Ils ont entendu les gens parler en langue, mais sauf que eux, ils ont compris ce qu'ils disaient. C'est le sens des paroles qu'ils ont entendues qui les ont touchées. C'est pas le parler en langue en soi. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils parlent en langue très fort, ils sont plus bénis que les autres. Non. L'apôtre Paul dit, si tu parles en langue, c'est bien, mais il faut que tu prophétises aussi. Il faut que tu interprètes. Et que tu prophétises, c'est encore mieux. Et il dit, moi je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, je préfère donner une parole avec la sagesse de Dieu. C'est pas une question de parler en langue ou de pas parler en langue, c'est une question d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour communiquer aux personnes qui nous entourent les merveilles de Dieu. Est-ce que ne vous avez pas soif ce matin de vivre ce contact avec le ciel qui vous permet de recevoir de Dieu ce qu'il veut vous communiquer pour que les gens qui vous entourent soient interpellés par les changements qui vont avoir lieu dans chacune de vos vies? Si vous n'avez pas soif, moi j'ai soif en tout cas de le vivre, mais je crois que vous avez soif. Alors, la Bible nous dit approchons-nous. Approchons-nous. Vendredi, on prenait ce texte des Hébreux. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et quand on s'approche de Dieu avec ce cœur sincère, ce désir d'être touché, ce désir d'être transformé, est-ce que vous croyez que le Seigneur va nous rejeter ? Non, il est celui qui bénit. La liberté d'adorer le Seigneur, mais la liberté aussi d'annoncer le Christ avec assurance. Souvent, on confond aussi le fait d'avoir l'assurance, le zèle pour parler des choses de Dieu, mais on veut que les gens viennent dans notre église, on veut que les gens viennent dans notre mouvement, on veut que les gens viennent à tel ou tel pasteur. Et au lieu de ne faire qu'une chose, notre désir, c'est pas forcément que les gens viennent dans notre église, notre désir, c'est que les gens soient amenés devant le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Qu'ils aillent dans notre église ou dans une autre, peu importe, c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est qu'ils soient en contact avec le Christ, celui qui veut être le sauveur de leur âme. Et regardez ce que fait Pierre dans son discours. On va lire quelques passages. Au verset 14, Pierre commence, se présente avec les 11. Il élève la voix, leur parle en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et au verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges. Il parle de Jésus. Et regardez, au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, etc., etc. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le discours de Pierre, il est composé soit de citations de l'Ancien Testament, donc il s'appuie totalement sur la parole, et sinon il ne fait que parler de Jésus-Christ. Ça me fait penser à ce témoignage d'une mission qui avait eu lieu dans une église où un soir il y avait un pasteur très éloquent qui prêchait. Il était là, il parlait avec assurance, avec conviction, il donnait des illustrations. Il était merveilleux dans son langage, incroyable. Les gens qui sont sortis de ce lieu, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il a bien prêché ? Ce pasteur, c'était magnifique. » Et puis le lendemain, il y avait un pasteur qui était beaucoup moins éloquent, qui parlait tout simplement. Parlez pas fort. Mais quand les gens sont sortis de ce lieu, ils ont dit « Qu'est-ce que mon Sauveur est merveilleux ?» Vous voyez la différence entre quelqu'un qui prêche avec conviction, mais qui se prêche lui-même presque, et quelqu'un qui prêche le Seigneur. Et l'Esprit, la présence de l'Esprit dans nos vies fait que nous pouvons parler de Christ avec assurance. Nous avons cette liberté-là. Dans la deuxième visitation du Saint-Esprit au milieu des disciples, dans le chapitre 4 des Actes, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont annoncé la parole du Seigneur avec assurance. Est-ce que, frères et sœurs, nous n'avons pas tous besoin, c'est pas que les pasteurs, tous besoin d'annoncer la parole du Seigneur avec assurance? Des fois, on est là, on ne sait pas quoi dire aux gens qu'on croise dans la rue, on ne sait pas quoi dire à nos familles, on ne sait pas quoi dire à telle ou telle personne que l'on côtoie dans notre travail ou dans telle ou telle circonstance. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin de cette liberté du Saint-Esprit qui nous permet de parler des choses de Dieu avec assurance? Alors, soyons remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est un élément qui nous permet de savoir. Des fois, on rencontre des chrétiens, ça fait des années qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, soi-disant, et on ne les entend même pas parler. Dans l'église, on ne les entend même pas prier. Ils n'osent même pas, ils sont tellement timides. Ou on les entend jamais parler de Dieu. Jamais dire une parole d'encouragement à une personne. Ah, c'est pas question de crier le dimanche matin, c'est pas ça. Mais c'est une question d'exprimer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est rempli de l'abondance du Saint-Esprit, alors je vais avoir l'assurance, c'est automatique, l'assurance de parler des choses de Dieu. Et je finis avec cette pensée qui, pour moi, peut-être est une des plus marquantes et un des besoins les plus grands pour connaître ces temps de visitation du Saint-Esprit. Une des marques qui montre que le Saint-Esprit est au milieu de nous, c'est qu'on a la liberté d'avouer son péché et de l'abandonner. Vous savez qu'il y avait la doctrine qui commençait à circuler déjà au 1er siècle, comme quoi la liberté, c'était de pouvoir faire tout ce qu'on voulait, de toute façon, le Seigneur faisait grâce. Il y en a qui mettaient, l'apôtre Pierre mettait en garde, il disait, il y en a qui, il faut qu'on soit libre, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Il y en a qui, par la liberté qu'on avait en Christ, ils faisaient n'importe quoi. Et après, ils disaient, moi, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Mais jamais on les entendait se repentir. Jamais on les entendait demander pardon. Est-ce que c'était ça, l'Esprit de Dieu? Mais l'apôtre Pierre, il dit, non. Ça, c'est pas la liberté de Christ. Nous avons besoin, tout ce temps que nous en sommes, de connaître ces temps où on est convaincu de péché. Est-ce que ça veut dire que notre salut est remis en question quand on est convaincu de péché? Non, mais il y a des moments où le Seigneur doit nous parler, doit nous reprendre. Combien de fois il a repris ses disciples? Combien de fois les disciples se sont approchés, par exemple en lui posant la question « Qui est le plus grand ?» Et le Seigneur, il a commencé à leur expliquer que c'était pas ça qu'il fallait rechercher. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû se repentir. Et combien de fois on a besoin de passer de tomber à nos genoux, sur nos genoux, dans notre chambre et de dire, Seigneur, oui, tu m'as montré ceci. Peut-être ce matin, tu me montres telle ou telle chose dans ma vie. Seigneur, oui, je veux passer par cette conviction de péché. Parce que quand le Saint-Esprit sera venu, Jésus l'a dit, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Et si il n'y a jamais dans notre cœur de moment où on est convaincu de péché, de justice et de jugement, alors on peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est au milieu de nous ? Si dans notre cœur il n'y a que des critiques, il n'y a que des paroles mauvaises, il n'y a que un désaccord envers les uns et les autres, alors on n'est pas animé du Saint-Esprit, laissez-moi vous le dire. On est animé d'un autre esprit, l'esprit de ce monde. Je pensais, et je finis avec cette illustration, enfin c'est même pas une illustration, c'est une histoire vraie, puisque c'est quelqu'un qui, avant un culte à Toulouse, est venu me voir et a commencé à me dire des choses, à critiquer une personne qui était dans l'église, juste avant le culte. Et moi, je devais aller sur le devant pour commencer, on faisait un temps de prière. Elle me dit ça juste avant, alors j'ai choisi d'être impassible, j'ai choisi de regarder au Seigneur, de ne pas considérer ses paroles. J'ai dit, Seigneur, tu fais grâce à la sœur qui est là. Et puis le culte s'est déroulé. Et il y a le point sur lequel voulait attirer mon attention, ça s'est déroulé, mais tout ce qu'elle a dit, ça avait rien, il n'y a rien qui s'est passé. Et à la fin de la réunion, elle est venue me voir, cette personne, et elle m'a dit, Michael, je suis désolé, je te demande pardon, parce que le Seigneur m'a montré que j'ai critiqué, que c'était pas bien, je veux te demander pardon. Et je lui ai dit, mais voilà, ça c'est une preuve que le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur ce matin. Parce que tu as été convaincu de péché et tu es venu te réconcilier. Même si moi, j'avais rien contre elle. Je lui ai dit, t'inquiète pas, t'es pardonné en avance, 10 000 fois. Mais voilà où nous pouvons discerner si le Saint-Esprit est au milieu de nous. Quand il y a cette conviction de péché. Quand nous sommes capables d'aller demander pardon à un frère ou à une sœur. Est-ce que vous voulez vivre la liberté de l'esprit, frères et sœurs, telle qu'on vient de la décrire, selon la parole de Dieu ? Alors, inclinons nos fronts.